Ce podcast vous est offert par plateforme.garden,
l'app des pros de l'espace vert.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans Podcast Garden. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu emblématique et historique, au château Pape Clément, une appellation Pessac-Léognan aux portes de Bordeaux. Une des nombreuses propriétés de Bernard Magret, un autodidacte, passionné par le vin et présenté comme l'homme aux 40 châteaux. Et aujourd'hui, c'est un autre autodidacte et passionné à qui nous nous intéressons et que nous avons grand plaisir à vous présenter, Monsieur Gilles Balassé, responsable des parcs et jardins. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Pour nos auditeurs, sachez que nous avons la chance d'être reçus dans la grande verrière avec une vue imprenable sur le château et son magnifique parc. Il fait très beau et même très chaud. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter le jardin en amont de cette interview. Merci Gilles de nous recevoir. Alors, pouvez-vous vous présenter un peu plus en détail?
D'accord, donc moi je suis responsable des parcs et jardins de Monsieur Bernard Magret. Donc je m'occupe de 9 propriétés. On va dire le fer de lance, hein, c'est quand même Château Pape Clément, puisque on est dans un grand cru classé de Graves. Ma responsabilité à moi, c'est d'avoir le plus beau jardin, d'avoir les plus belles plantes, d'avoir le plus beau gazon. On est toujours sur la compétition, sur le toujours plus. C'est en fait le leitmotiv du propriétaire.
Quel est votre rôle?
Alors moi, mon rôle, il consiste en fait à proposer toutes les améliorations possibles sur le domaine. Alors ça peut être très varié, hein. Ça peut être, alors bien sûr, le jardin, c'est la partie essentielle, mais ça peut être aussi les grilles, les portails, des aménagements de terrasses, par exemple. C'est très très variable. Alors j'ai une équipe de 2 personnes qui sont avec moi, qui me suivent. On reste donc essentiellement à Château Pape Clément, mais moi je me déplace beaucoup donc pour aller visiter les autres jardins, les autres châteaux, et pour intervenir bien sûr avec mon équipe s'il faut.
Vous avez, Gilles, un parcours très atypique, un mental de sportif et une passion débordante qui est à l'origine de notre envie de vous donner la parole. Pouvez-vous raconter à nos auditeurs votre parcours?
Alors effectivement, mon parcours est vraiment très atypique. En fait, moi j'ai commencé comme cuisinier. Donc la cuisine, c'est donner du bonheur aux gens, donner du plaisir. Et donc j'ai fait ce métier pendant quelques années jusqu'à être chef cuisinier. La vie de famille fait que c'est compliqué la cuisine parce qu'il y a beaucoup d'heures, etc. Donc j'ai travaillé ensuite pendant 2 ans à la création du golf de Pessac. Et quand j'ai vu ces gazons, ça, je me suis dit, voilà, je veux faire ça, c'est ça qu'il me faut. Être dehors, l'air libre, tout ça. Ma grand-mère m'a toujours dit ça. Mon petit, il faudrait que tu sois jardinier.
Et vous voilà devenu un grand jardinier. Alors oui, vous avez provoqué la chance et on vous l'a donné, mais on comprend vite que la chance n'est pas le seul élément. Il y a beaucoup de travail, non?
Alors effectivement, moi j'ai un patron, monsieur Bernard Magret, qui m'a donné ma chance, qui m'a laissé cette chance-là. Alors je l'ai provoqué aussi, parce que quand je suis rentré ici, donc je ne connaissais rien au métier. Je sortais juste du golf comme ça, donc là-bas... ça m'a donné cette passion du gazon que j'ai, vraiment qui est ancrée en moi. Et ensuite, moi, quand quelque chose me branche, j'y vais, en fait. Donc j'ai pris beaucoup de livres, je me suis renseigné partout, à droite, à gauche. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, parce que quand je suis rentré ici, je ne savais même pas planter une fleur. Donc j'ai été voir la mairie, je leur ai dit comment on plante une fleur. Il m'a dit, tu prends ta main, tu fais un trou et tu mets la fleur dedans. Donc j'ai trouvé ça tellement simple. Mais en fait, quand on ne sait pas, je pense qu'il faut demander. Et petit à petit, je suis resté quand même pendant 18 ans tout seul au château. Donc ça a été compliqué de faire justement des projets et tout ça. Et donc pour avancer, moi j'ai demandé à M. Magret, voilà, est-ce que je peux passer responsable avec des gens qui vont m'aider dans ma mission, dans mes tâches. Et effectivement, il m'a laissé ma chance et il m'a créé ce poste-là. Et depuis, en découle ce magnifique jardin, j'espère.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce magnifique jardin que vous avez créé? Je sais que nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance de visiter ce jardin vont pouvoir se l'imaginer, je l'espère, ou être impatients en tout cas de venir le voir. Parlez-nous-en.
Alors en fait, en quelques mots, ce jardin a été construit, moi ça fait 33 ans que je suis là, donc il a été construit en à peu près une trentaine d'années. Donc c'est pas récent, les choses se font pas comme ça. Et donc, quand il n'y avait pas beaucoup de moyens, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire et tout ça. Donc je me suis fait aussi aider, bien sûr, par des personnes compétentes. J'ai un mentor, un paysagiste qui est mon mentor, qui m'a aidé à mettre mes idées en place. Parce que des idées, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ressort aussi de la compétition. J'ai fait beaucoup de vélo. Et donc ça, c'est toujours essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin. C'est la partie très intéressante et qui forge toujours, je dirais, un homme quand même. Et donc petit à petit, avec les moyens et la confiance de M. Magret, moi j'ai une inspiration qui est très méditerranéenne. Voilà. Donc c'est mon inspiration et ça se ressent d'ailleurs dans le jardin. Donc petit à petit, en fait, des coins ont été créés, des lieux ont été créés. Et avec, bien sûr, des pépinières compétents aussi. Hein. J'ai appris les plantes, les arbres, les arbustes. Et donc maintenant, je pense avoir une belle palette végétale à Pape Clément. Et c'est ce qui crée cet endroit unique.
Alors pour nos auditeurs, c'est véritablement une balade, un parcours dans lequel on déambule et on s'émerveille.
Oui, alors en fait, c'est un parcours initiatique, j'aime bien dire ce mot. C'est-à-dire qu'on part en fait de l'origine du jardin, donc à l'est, donc avec des terres de bruyère. Ce qui ont été d'ailleurs le premier jardin que j'ai créé, qui a évolué bien sûr. Hein. Et donc on a fait un petit dédale en fait qui fait tout le jardin pour faire voyager les gens. Donc on passe des points cardinaux de l'est à l'ouest, au sud. Et donc à chaque fois la palette végétale elle change. Et petit à petit les connaissances aussi du paysagiste changent. Et donc on acquiert de la confiance, on acquiert des nouvelles connaissances. Et donc il y a cinq jardins en fait successifs qui se passent, donc du jardin de terre de bruyère au petit sous-bois, au potager, au jardin sec, donc qui est quand même une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de très très atypique, avec des plantes atypiques aussi. Et on finit par la palmeraie qui est aussi, tout le monde n'a pas une collection de palmiers comme ça quoi. Hein.
Oui, pour ma part c'est la première fois que je vois une telle collection. J'aimerais pour nos auditeurs qu'on les fasse rêver un peu plus, que vous nous parliez des autres sujets exceptionnels, rares, hors normes que nous avons pu voir ce matin.
Alors en sujet hors normes qu'on a, on a bien sûr des oliviers qui sont millénaires et double millénaires même. Nous avons un yucca qui a une centaine d'années, donc un yucca filifera australis, qui vient de la région de Malaga, que j'ai introduite donc ici à Pape Clément. Nous avons des Jubea chilensis qui viennent de la cordillère des Andes, donc c'est des palmiers qui sont assez rares, de cette taille-là en tous les cas. Hein. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est vraiment cette rareté de botanique et de taille de sujet exceptionnel. Voilà. Dans ma quête, j'ai pas fini parce que je voudrais introduire des oliviers cypressino. Alors ça, c'est un projet en fait que j'ai pour l'allée d'honneur. C'est quelque chose qui est unique, je crois que je n'en connais même pas en France. Donc ça sera peut-être la suite du jardin.
Pour ceux qui nous écoutent, il faut imaginer ce parcours dans lequel nous passons de jardin en jardin, de jardin en potager et même de jardin en poulailler. Et c'est au centre de ce jardin, on découvre un écrin de verdure, une pelouse verdoyante où culmine un green de golf. On sent bien là l'amour pour le golf.
Oui, alors bon, bien sûr, sortant du golf, ma première passion a été d'avoir les plus beaux gazons, toujours plus loin, toujours dans la compétition. Ça, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Donc, le but était de montrer, en fait, tout ce qu'on peut faire avec le gazon. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que les gazons, ils sont tondus toujours de façon différente. Alors, bien sûr, l'entretien est comme un golf. Hein. Donc, on tond à la triplex à green. On est en biocontrôle, on fait des aérations, des sablages. Le programme est vraiment très très draconien pour avoir un tel résultat. Je pense aussi qu'on est quasiment les seuls hein, à avoir des gazons comme ça. Ça c'est vraiment ma passion et d'ailleurs ça se ressent, on le voit parce que peu de châteaux, hein, enfin, j'en connais même pas à ma connaissance, qui ont cet état de gazon là. Donc c'est vraiment le plus évidemment et jusqu'au green de golf justement pour montrer tout ce qu'on peut faire avec du gazon jusqu'à le plus extrême possible. Quand j'étais encore cuisinier que j'ai voulu travailler au golf, La première chose qu'on m'a dit, en fait, c'est le gazon, c'est 90% du temps, c'est la tonte. Donc on fait 2 tontes par semaine, mais voire en saison, on peut faire 3 tontes par semaine. Donc ça, déjà, c'est une grosse partie. L'arrosage est une partie énorme, puisque l'eau, c'est la vie. Donc si on n'a pas d'eau, on n'a pas de vie, et le gazon... En fait, la complexité d'avoir, c'est de mettre la bonne quantité d'eau sur le gazon. Pas trop, pas moins. D'où les sondes qu'on a introduites aussi au château, justement pour contrôler ce taux d'humidité-là, qui est très très importante. Ensuite, le biocontrôle, en fait, donc on a fait ce choix d'être aussi les seuls hein, en gazon à faire du biocontrôle. Donc en fait, on va raisonner un peu comme un sportif de haut niveau, hein, peut-être comme un cycliste même. Donc à savoir qu'on va renforcer la plante donc avec différents produits, hein, des oligo-éléments, des engrais aussi bien sûr. Hein. On est à 100% liquide et donc ce qui fait qu'on peut traiter par n'importe quel temps. On n'aura pas de problème sur ce sujet-là. Mais par contre, ben, il faut y passer très souvent. Donc là on est à peu près à entre 15 et 21 jours de passage sur les gazons en biocontrôle. Donc c'est quand même assez rude, hein. il faut le faire le travail.
Oui, nous prenons bien là la dimension et la charge de travail. Et du coup, pour revenir sur l'utilisation des sondes dont vous venez de nous parler, est-ce que, de manière générale, la technologie, le digital, la domotique, on va dire, qui s'invite dans nos jardins, les espaces verts, les terrains sportifs, est-ce que cette technologie-là vous aide dans votre travail au quotidien ?
Alors en fait, cette technologie, déjà, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle m'apprend, en fait, je suis chez moi. Même quand je suis chez moi, quand je suis en vacances, je peux contrôler. Quand on est passionné, il faut contrôler toujours ce qu'on fait. Et ben, je peux dire, par exemple, si je ne suis pas là, je peux dire, tiens, là, tu m'arroses telle parcelle, tu me mets 2, 3 mm d'eau, 5 mm d'eau, parce que là, sur mes sondes, je vois sur mon graphique que je suis en manque d'eau. Si j'ai un orage, ben, je veux dire, là, on peut couper l'arrosage pendant 1 jour, 2 jours. Et en fait, je suis informé journalièrement en fait, des besoins de mon gazon. Vraiment comme un sportif, hein, c'est-à-dire qu'il a besoin d'eau, je vais lui en donner, il n'en a pas besoin, je ne vais pas lui en donner. Et comme on a toujours tendance à trop arroser de peur de manquer d'eau, hein, c'est vraiment la peur de l'intendant, hein, on dirait un greenkeeper qui travaille sur un golf, la première peur, en fait, c'est d'avoir le gazon qui grille, parce que de suite, ça se voit, et après, par contre, il faut entre 15 jours et un mois pour que ça revienne. Donc nous, on a beaucoup de mariages ici sur ce domaine-là, on a beaucoup de personnes qui passent, et je ne peux pas considérer que quelqu'un qui louerait par exemple pour un mariage au 1er juin où le gazon est magnifique, et quelqu'un qui doit avoir la même prestation au 31 août. Donc les sondes en fait sont un outil exceptionnel pour ça, parce que justement on peut contrôler. Et le contrôle c'est très important parce que moi je ne suis pas dans la terre, donc là je le contrôle sur mon téléphone, c'est merveilleux.
Si vous me le permettez, j'aimerais aborder le sujet de la loi Labbé qui encadre l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'ensemble du territoire national. Cette interdiction vise entre autres l'entretien des espaces verts. Comment vous vous préparez à cela ?
Alors justement, bon, cette loi, pour l'instant, elle n'est pas encore en vigueur, mais effectivement, nous, on reçoit beaucoup de public ici. Et en fait, c'est un choix personnel, mais aussi de M. Magret. De toute manière, on se prépare dans les vignes. On est déjà préparé depuis quelques années à zéro phyto, tout au moins ce qui est désherbage de la vigne. Donc nous, on fait intervenir des chevaux, etc., pour justement avoir cette démarche voilà, environnementale. Moi, ça fait 4 ans que je suis en biocontrôle pour les gazons. Et j'anticipe en fait, hein, on essaie d'anticiper et je m'aperçois que depuis 4 ans ça marche. Voilà, donc si ça marche, pourquoi pas pour les autres.
Et si nous parlions un peu d'avenir, d'après vous, à quoi ressembleront les parcs et jardins dans quelques années, tant sur la palette végétale, le changement climatique, l'avènement du digital, et après plus particulièrement, quels sont vos futurs projets ?
En fait, moi je pense qu'il faut justement voir demain, et comment sera demain. Donc déjà ça commence par la palette végétale, hein, donc bon, on a un réchauffement climatique quand même qu'on ne peut pas nier. Donc le climat aussi, je pense que bon, nous on a un climat océanique ici, mais on se rapproche d'un climat méditerranéen par ces gros coups de chaleur, par de moins en moins d'eau. Donc tout, en fait, le jardin sec, on a créé les sondes justement pour calculer exactement l'eau qu'on a besoin et ne pas déborder là-dessus. Donc toujours le côté environnemental qui est très important. Et justement, la palette de plantes va changer. Et c'est à nous à la changer. C'est pas au climat à s'adapter. Nous, on doit s'adapter au climat. Donc moi, je vois bien, pourquoi pas, des cactus, ça pourrait être sympa. Ensuite, pour évoluer, moi je vois toujours cet esprit effectivement de faire des projets, toujours des projets pour un jardin, c'est jamais fini de toute manière. Donc il y a toujours matière à faire, toujours matière à explorer et à renforcer et à embellir. Donc des projets, il y en aura toujours.
Alors Gilles, j'aimerais bien revenir juste sur ces sujets exceptionnels et en particulier ces oliviers millénaires. Comment arrive-t-on finalement à planter ici à Pessac de tels sujets? Comment sélectionnez-vous vos plantes et où puisez-vous votre inspiration? Vous voyagez, non?
Alors bien sûr, c'est alors les premiers oliviers qui sont rentrés à Pape Clément, c'est Monsieur Magret qui a eu cette opportunité. Alors moi, j'y suis allé avec sa fille, Madame Daquin, et donc on était les choisir. Alors, il y avait un prix, bien sûr, qui était dessus, donc on était les choisir, on en a mis dans chaque château, hein, pour avoir une collection unique en son genre. Moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir un pépinière qui voyage beaucoup, qui a eu des pépinières partout dans le monde. Et donc, moi, je pars régulièrement en Espagne, hein, Méditerranée, forcément, ça me parle. Et donc quand je vais faire l'huile d'olive, justement, je pars une semaine et là j'en profite pour faire toutes les pépinières là-bas pour voir justement les tendances. Parce que c'est aussi ça, c'est comme un intérieur, c'est comme un nouveau canapé, des nouveaux habits. En fait, on est toujours sur qu'est-ce qui va se faire demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain, quelles plantes on va pouvoir trouver. Alors moi aussi, je cherche des plantes nouvelles, des plantes qu'on n'a pas implantées encore ici. Et mon but aussi, il est là-dessus. Et toutes ces pépinières, justement, vont apporter ça. Il y a aussi les salons. On a Paysalia qui est une fois tous les deux ans à Lyon, donc je me rends bien sûr pour voir toutes les nouvelles tendances, tout ce qui se fait. Les idées en fait elles sortent de la tête, mais elles sortent aussi des faits réels, donc de ce qu'il y a. Je visite tous les jardins possibles, imaginables, parce que je suis passionné par les jardins. Et voilà, le but il est vraiment, effectivement, le voyage fait partie de l'évolution.
Allez, un petit mot pour la fin, pour les professionnels de l'espace vert, mais aussi pour tous les passionnés de jardin comme vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Alors moi, je leur dirais déjà de ne pas s'affoler pour tout et n'importe quoi. J'aime bien raconter que il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'ai des pucerons sur mes plantes » ou « J'ai une feuille de bananier qui est cassée ». Ben, je veux dire, nous on est pareil, hein. Des fois on a des boutons, des fois on a des cheveux blancs, mais c'est pas pour ça qu'on vit mal, on vit très bien. Donc je crois qu'il faut pas trop s'affoler, il faut essayer de voyager pour voir ce qui se fait, ce qui est... Les jardins en fait sont là pour donner du plaisir, donner du bonheur aux gens, et je crois qu'en s'inspirant de ça déjà, on peut justement voir ce qu'on peut faire chez soi ou pas faire. Mais la plante, c'est du végétal, ça vit comme nous. Donc si ça ne marche pas, si une plante ne marche pas, en fait, ben, faut changer.
Et ce sera donc le mot de la fin. Merci infiniment, Gilles, pour ce voyage dans ce jardin d'exception. Merci pour votre enthousiasme et votre sourire. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour partir à la rencontre d'un autre acteur direct ou indirect de la filière Espace Vert dans Podcast Garden. À bon entendeur. À très bientôt.
Ce podcast vous a été proposé par plateforme.garden,
solution digitale de l'espace vert. Nous vous invitons à télécharger l'app plateforme.garden sur l'App Store ou Google Play
et découvrir tout l'univers Plateforme Garden sur www.plateforme.garden.
www.plateforme.garden.